nous intéressons ce jour au défi de la 7e législature, rentrée officielle le 3 mai dernier, suivie de l'élection de Simplice Mathieu Sarandi, président de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau. Comme vous le savez, le bureau est désormais mis en place. Quels sont les défis qui attendent les députés nouvellement élus? Quels sont les enjeux de la configuration de cette 7e législature? Quelles sont les erreurs à éviter? Voici des questions qui vont être débattues dans un instant par nos invités ici au studio C de votre radio, Radio Ndekiluka, la radio de la paix et du développement. Pour en parler, je reçois Alexis Nduya Bella. Bonjour.
Bonjour Armando.
Vous êtes docteur en droit et conseiller politique du Premier ministre et Monsieur Augustin Agou. Bonjour.
Bonjour.
Ancien député du premier arrondissement de Bangui et président du parti La Renaissance pour le développement durable RDD, Monsieur Mathurin Dimbele Nakoué. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, ancien député de Sosona Kombo et coordinateur du mouvement Centrafrique Debout, organisation de la société civile qui soutient les actions du pouvoir exécutif. Et monsieur Laurent Gomina Pampali, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, oui, vous êtes président de l'Union nationale des démocrates et républicains, parti centriste et ancien président du Parlement de la CIMAC. Je suis Armand Nguindi. Bonjour à toutes et à tous. Mieux vaut tard que jamais. Bonne fête de fin du Ramadan à tous les musulmans centrafricains et d'ailleurs.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekiluka.
Ouvrons ce débat avec cette actualité, manifestation mercredi à Bangui. Des membres de la plateforme de la société civile dénommée Galaxy 3003 contre la mission onusienne et ce qu'ils qualifient d'ingérence de la France dans la crise en Centrafrique. Comment appréciez-vous, messieurs, autour de cette table, cette action? D'abord par vous, monsieur Gomina Pampali.
Pour être véridique, je me suis toujours posé la question de savoir si les manifestations que l'on voit dans la ville depuis quelque temps sont le fait de formations politiques reconnues, ayant une origine, enfin une doctrine, ayant un programme et défendant bien sûr des causes nationales, ou si c'est des manifestations suscitées par des groupes ou des groupuscules tenant souvent un langage qui ne sied pas, un langage extrémiste. Je me pose la question, je dis, est-ce que ça peut avoir une portée positive pour le pays? Puisque bon, aujourd'hui, je crois que les manifestations s'adressent à la MINUSCA, à la France, enfin même tout mélangé. C'est des gens qui sont chez nous, on veut s'en débarrasser comme ça du coup. Quel effet ça peut avoir par la suite? Non, j'ai fait la politique dans ce pays pendant plus d'une trentaine d'années. Je me dis que s'il y a des causes à défendre, il faut bien les penser, il faut bien les réfléchir. Il faut avoir à peu près tout le monde avec soi, que le militantisme hargneux, brutal, ne va jamais loin. Enfin, c'est mon avis. En tant que...
Voilà, c'est votre avis. Je vais voir de l'autre côté de M. Nduya Bella. Quel est votre commentaire par rapport aux manifestations organisées ces derniers temps contre la France, contre la MINUSCA et contre certaines institutions internationales dans ce pays?
Je vous remercie. Ça fait partie de la règle des jeux démocratiques. La manifestation, hein, ça fait partie de la règle des jeux démocratiques. Quand on... partie, une frange de la population mécontente d'un contexte donné, c'est tout à fait normal. Et la manifestation, en tant que telle, n'est pas exclue du jeu démocratique. Parce qu'on doit interpréter ça comme qu'il y ait la politique là derrière. Non, alors, il faut tenir compte du contexte. Récemment, on a organisé les élections, le président de la République a été élu, et l'Assemblée nationale se met en place. La communauté internationale, la MINUSCA et la France, bien entendu, qui sont là pour nous accompagner. Le peuple centrafricain n'est pas un peuple dupe. Nous ne sommes plus en 1960 où il y avait la majorité des illettrés. Vous avez maintenant des jeunes qui sont là, qui pensent le devenir de la République centrafricaine. Et ce à quoi aspire le peuple centrafricain, c'est la paix. Et donc on a compris qu'il y a des manœuvres. On est lié avec la France par les accords. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les accords de quadripartite de 1960. C'est des accords de défense. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le ressort? Moi, quand j'étais étudiant, je m'en suis procuré. J'avais demandé à un collègue parisien de me faire voir. Parce que vous savez, il m'a donné le pays. j'étais moi-même en tant que chercheur, je suis allé à la bibliothèque de l'Université de Nice, que j'ai demandé est-ce que vous pouvez me sortir le journal officiel de 1960, et on m'a sorti, puis j'ai lu les accords. Et donc on est lié à travers cet accord, ça veut dire quoi?
Et donc lorsque,
lorsqu'une autorité légitime est menacée, c'est le sens même de cet accord quadripartite, les autorités légitimes en place menacées, la France doit intervenir automatiquement pour protéger ce régime. Donc on a constaté que c'est ce que ressent la population, que bon, même depuis un certain temps, c'est vrai, c'est la politique, les autorités politiques françaises, sur la base de l'expérience de ce qui s'est passé au Rwanda, maintenant ils disent qu'ils ne veulent plus intervenir directement dans les crises africaines. Or, il se trouve que vous voyez ce qui s'est passé le 13 janvier 2016, menacer la déstabilisation des institutions de la République. Et à ce moment précis, en vertu des accords de Guadeloupe de 1960, la France devait intervenir. Or, on a vu que c'est la Russie, la Fédération de Russie, qui est intervenue, pas dans l'illégalité, mais dans le cadre également d'un accord de défense.
Mais donc, est-ce que c'est une manière donc, à ce niveau-là pour organiser des manifestations contre, par exemple, la France, la MINUSCA dans ce pays? Y a-t-il pas d'autre manière de faire ce travail, comme a dit M.
Gouména-Pampani, bien réfléchi avant d'agir. Qu'est-ce qu'on, ils ont pensé que ça, c'était stupide, des gens pas intelligents? Non. Ils sont conscients, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a besoin de la paix. Et donc, la communauté internationale, la France, etc., doivent, et puis on doit le sentir.
Et donc, pour vous, cette manifestation, pour vous,
c'est
l'expression de...
J'ai fait sciences politiques, ça fait partie de ce qu'on appelle des manifestations, ça fait partie de la règle de jeu politique. Donc, il appartient aux uns et aux autres, dans de toute façon, ça a été démocratique.
On a du temps par rapport à votre temps.
Ils ont remis un mémorandum également à DCR. Donc c'est une manière de mécontentement.
Voilà, une expression de mécontentement.
Et c'est tout à fait normal.
Monsieur Djibril Nako, je vais vous renouer la tête. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que monsieur Ndioye Abela vient de dire?
Tout à fait. Je voudrais dire que manifester ne veut pas dire nécessairement rejet. Lorsque la jeunesse manifeste, ça peut être un appel. Ça peut être un appel compte tenu de certains faits. La jeunesse pense que certaines puissances devaient faire un peu plus ou mieux ou autrement que par le passé. Vous savez, l'histoire ne ment pas. Hein, en 1966, il y a eu un coup d'État. Nous savons comment ce coup d'État a été organisé. À partir de 1972 jusqu'en 1979, il y a eu ce fameux coup d'État, l'opération que vous connaissez, que tous les Centrafricains n'oublient pas. Un pays souverain, vous comprenez. En 1981, il y a eu élection et d'aucuns pensent que les résultats n'étaient pas ces résultats-là auxquels les Centrafricains s'attendaient. Et donc, récemment, nous avons été aux élections. Vous savez ce qui s'est passé le 27 décembre 2020. Vous savez ce qui s'est passé. Moi, j'étais à Carnot. Les urnes, la jeunesse courageuse a amené les urnes jusqu'à la mairie parce que on disait, il y avait des rumeurs qui couraient de faisant état de ce que il y avait des bandits qui étaient à Baoro et qui étaient en train d'avancer. La jeunesse courageuse a amené les urnes jusqu'à la mairie de Carnot. Mais ces urnes-là ont été rattrapées, détruites devant certains contingents de la MINUSCA. Et ça, la jeunesse est au courant. Donc, cette jeunesse qui manifeste aujourd'hui, c'est une expression de ras-le-bol. La jeunesse veut un changement dans le comportement de nos partenaires.
Mais vous avez déjà dit que manifestation, oui, mais ce n'est pas un rejet. Mais dans cette manifestation, on a demandé, par exemple, le retrait de Monkeur Ndiaye, qui est le patron de la MINUSCA. On demande qu'on puisse arrêter les signaux, par exemple, de RFI ici. Ça, ce n'est pas un rejet, ça.
Je vous ai dit que les jeunes, parce que tout à l'heure, M. Gouména-Pampali a posé la question de savoir est-ce que c'est des partis politiques organisés, tout et tout, qui organisent ces manifestations. La réponse est non. Hein? La réponse, vous-même, vous avez annoncé l'organisation de la société civile qui soutient les actions du gouvernement. Bon, comme vous voulez. Moi, j'ai participé à cette marche. Oui. Mon organisation, en tant que
Centrafrique
debout, a participé à cette marche-là. Je suis de cette génération-là qui a été pratiquement sacrifiée. De 1966 à aujourd'hui, la RCA ne connaît pas de répit. Pourquoi? De 1966 à aujourd'hui.
Est-ce que la RCA ne connaît pas de... Est-ce que la responsabilité n'est pas du tout partagée à ce niveau, centrafricainement parlant?
Même si la responsabilité est partagée, je dis ça sous le contrôle de M. Gomina Pampali, qui a été plusieurs fois ministre, qui il sait. Est-ce que nous avons vraiment les moyens qu'il faut pour assumer notre indépendance réellement vis-à-vis de certaines puissances? Je vous ai parlé de 1979. Où avez-vous vu un État dont le président est mis dans un avion à partir d'un État donné pour amener dans cet État-là, placé comme président de la République? Où avez-vous vu ça?
Et ça, c'est un Centrafricain, ce n'est pas un étranger. On a mis ce Centrafricain dans un avion pour venir dans ce pays pour le pouvoir.
Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Même si l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est l'alternance, mais il y a des règles pour l'alternance.
Merci, on va gagner du temps avec vous, M. Dimele Nakwe, M. Augustin Agou, sur la manifestation ou les manifestations ces derniers temps contre certaines organisations internationales. Je parle de la MINUSCA et bien d'autres, et surtout la France en Centrafrique.
Je vous remercie, M. Armando. Je pense que je ne veux pas m'attarder sur la manifestation en tant que telle, parce que ce n'est pas interdit, comme disait le chargé de mission. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les effets. Ce qui va se passer après, par rapport à notre pays, la République centrafricaine. M. Armando, nous ne pouvons pas continuer de défier la communauté internationale, et tout en espérant qu'un jour, qu'on va nous aider encore à sortir de la situation. Donc, c'est ça mon inquiétude. C'est-à-dire, j'insiste sur les effets. Les effets. Parce qu'il y a eu des propos. C'est-à-dire que, bon, les gens peuvent manifester, c'est normal. On peut remettre le mémorandum, c'est normal. J'étais dans ma présentation quand je suivais la radio, les propos extrémistes, les propos qui ont été tenus à l'encontre des Nations Unies. On parle des Nations Unies, c'est le monde entier. Faites la comparaison avec notre pays, la République centrafricaine. Et donc, les propos tenus contre un pays comme la France, moi je le dis à M. Armando, il faut qu'un jour que nous, les Africains, nous arrêtons de tout mettre sur le dos de la communauté internationale. J'ai comme impression que depuis que ce pays existait, on a caché nos faiblesses, nos manquements, nos problèmes de gestion, on a ramené tout sur le dos de la communauté internationale. On a pensé à tort que c'est la communauté internationale qui devait développer le pays, c'est la communauté internationale qui devait venir instruire nos jeunes enfants à être des professionnels, à être des créateurs d'emplois. C'est la communauté internationale qui devait venir développer l'agriculture au lieu de place où l'agriculture est un état embryonnaire. C'est la communauté internationale. Il faut qu'un jour qu'on arrête et qu'on s'asseye, nous, Centrafricains, qu'on regarde et qu'on dise qu'est-ce qui ne va pas. Parce que, justement, pourquoi aujourd'hui les Nations Unies sont arrivées en République centrafricaine? Pour quelles raisons? Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Nations Unies arrivent ici,
avec les casques bleus
et tout ce que vous connaissez qui arrive ici? Vous savez, je dis toujours dans le monde entier, même Dieu. Dieu, c'est un problème d'intérêt. Avec Dieu, c'est du donnant. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie, M. Armando, sans qu'il trouve ses intérêts dans ça. Je suis un homme de Dieu, je sais pourquoi je dis ça. Et donc, les relations entre les deux pays, les nations, c'est un problème d'intérêt. Chacun essaie de protéger ses intérêts. Et donc, en résumé, je me dis, la manifestation, oui. Remettre le mémorandum, oui. Mais ce qui m'inquiète, ce sont les propos extrémistes.
Voilà, vous vous inquiétez des effets de ces manifestations. Voilà. Non, on gagne du temps, je vous en prie.
Il faut avoir des effets, non, enfin, qu'on clarifie.
Est-ce que vous pouvez accepter pour qu'on puisse évoluer?
Oui, d'accord, ok. Bon,
je vous donne quelques secondes.
Non, je voudrais me dire, non, pas d'effets. Tous les États au monde sont égaux. Et je dis, et que je le précise, la souveraineté appartient au peuple centrafricain.
Mais oui, il y a aussi donc, le rapport.
Est-ce que vous faites l'expression, manifeste, il y a détenteur de la souveraineté, manifeste son mécontentement, on doit aller à l'encontre? Non, les États sont égaux.
Non, nous sommes égaux, mais est-ce que vous faites aussi allusion au rapport de force à ce niveau? Est-ce que le rapport de force...
Et puis on est dans un monde interdépendant. On dépend des uns des autres et nous souhaiterons que si on est dans le cadre de la coopération, et la coopération doit être franche, claire, limpide, qu'il n'y ait pas des en dessous. On peut venir dire, voilà, il y a ça, et après, bon, vous n'êtes pas sans ignorer.
Mais est-ce que cette manifestation a été appuyée par le gouvernement, par exemple?
Non, c'est pas été. Mais il l'a dit, quand le député, honorable député, a dit, voilà, c'est pas appuyé par le gouvernement. C'est une réaction. Mais Gomina Pampali, il a fait la philosophie, c'est Gustave Lebon, c'est lui qui a développé la spontanéité. Et donc, dès que ça, tout le monde suit. C'est la théorie de Gustave Lebon.
Merci beaucoup,
donc, laisse qu'on manifeste automatiquement, tout le monde se joint, etc. On ne cherche pas à comprendre si c'est un parti politique qui est derrière.
Il y a des spontanéités suggérées.
Poussées. Vous avez compris. Donc, on va boucler, comme je disais tantôt, la boucle, et puis venons-en à notre sujet du jour, les défis qui attendent la 7e législature. Mais Mais d'abord, je vous propose de suivre Igor Djeskansenapay sur la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale.
Pour ce premier bureau de la 7e législature, 3 femmes sont élues sur 15 députés. Évariste Ngamana du MCUI devient premier vice-président. Bernard Dila du MLPC, ancien secrétaire parlementaire pour la 4e fois consécutive, est désormais élu deuxième vice-président. Michel Kingo, toujours du MCUI, obtient lui le poste de 3e vice-président et Dieudonné Marien Djemé de Mouni revient une fois de plus 4e vice-président. Évariste Ngamana fixe ses priorités.
Je suis aujourd'hui installé au poste de premier vice-président de l'Assemblée pour apporter ma petite pierre à la construction. Je pense que à travers les modestes expériences que j'ai de l'institution qui est l'Assemblée nationale, je pourrais toutefois mettre mes petites compétences au service de cette institution. Donc je vais devoir travailler main dans la main avec le président de l'institution qui est l'honorable Simplice Mathieu Sarandi pour la bonne marche d'abord de la représentation nationale, mais aussi pour la bonne marche de notre pays à travers le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale.
Henri-José Gogouda, élu dans la circonscription de Bimbo 2, devient premier questeur. La deuxième questure est tenue désormais par Josué Titus Ngungbo du RDC et Magloire Jocelyn Makango du MCI reste troisième questeur. 3 secrétaires parlementaires font leur entrée dans ce bureau. Il s'agit de Clément Dombé du MCU, Bernadette Gambo-Swaninzi de MCU et Dorothée Tiangou de l'UNDP. Les 4 membres assistants des vice-présidents sont Brice Yvon Rodrigue Koda Sialo, Sylvain Bombo de Nola 3, Alimé Aziza Soumaïn du MCU et enfin Lucien Baïgoto de Mouni. Ces députés sont élus pour un mandat de 1 an renouvelable au bureau de l'Assemblée nationale. Leur mandat expire en mars prochain lors de la première session ordinaire de 2022.
Merci Igor Djeskansenapay. Vous connaissez déjà, messieurs, autour de cette table, la configuration du bureau de l'Assemblée nationale. Quel commentaire faites-vous de ce bureau, monsieur Ndiouyabela, conseiller politique du Premier ministre, j'allais dire?
Ce sont les représentants du peuple qui sont prononcés et qui ont mis en place. On a assisté à l'élection qui s'est déroulée d'une manière démocratique. Il y a eu des candidatures et que moi, je suis tout à fait satisfait de voir que bon, de les partis politiques. Hein. Beaucoup, vous voyez, dit tout à l'heure dans le reportage, j'écoutais, il y a Mouni, il y a MLPC, il y a RDC, il y a UNDP. Et donc, ce n'est pas une gestion néo-patrimoniale de l'Assemblée nationale. Il y a toutes les sensibilités. Au moins, s'il y en a un, déjà, parti politique représenté au sein du bureau. Et donc, je pense que c'est un bureau qui a été démocratiquement élu. Et donc, on a eu appel à toutes les sensibilités pour la composition de ce bureau. C'est vrai. Il faut remarquer que nous sommes dans un système de la système majoritaire. Quand une majorité s'est dégagée et que normalement, dans certains États, on ne devait pas voir l'entrée des représentants de MLPC, du RDC, de l'UNDPD dans un bureau politique, hein, d'un mouvement parti politique. Je dis ça par expérience.
Certains partis que vous avez cités sont des alliés.
Hein. Oui, c'est des alliés. Et puis bon, il y a eu une ouverture à des partis politiques qui viennent composer le bureau. Et donc, c'est tout à l'honneur de la République centrafricaine. C'est un bureau démocratiquement installé qu'il faudra saluer. Et donc, on attend maintenant le résultat. Ils l'ont dit. Ils vont travailler la main dans la main. Tout ça, ils sont élus pour faire le bonheur du peuple centrafricain. Et puis, donc, on les attendra.
Voilà, monsieur Augustin Agou, quelle lecture faites-vous de ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale?
Bon, monsieur Armando, en principe, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire d'emblée du jeu. Même quand nous, on était là, 6e législature, le poste de deuxième vice-président, nous, on s'est réunis, nous, les députés, et on a réservé ça à l'opposition. C'est pour ça que dans les premières années, c'est UK qui avait désigné un représentant qui était deuxième vice-président. Bon, maintenant la question...
Troisième.
La question maintenant, c'est de savoir est-ce que MPC, on le classe où? Est-ce que MPC est de l'opposition?
Parce qu'à oui, MPC est désormais de l'opposition.
Désormais de l'opposition.
Oui, selon son président.
Bien, donc, bon, si MPC est de l'opposition et que un de ses représentants est au deuxième vice-président, c'est déjà bon. Donc, honnêtement, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus.
Oui, monsieur Gomina Pampali, sur cette mise en place du bureau de l'Assemblée nationale pour la première année.
J'ai vu évoluer ce pays lorsque la démocratie est revenue en 1993. Il y a eu au départ, effectivement, cette tendance à l'exclusion. Un pouvoir arrive parce qu'il a gagné, bon, qui gagne commande, et les autres doivent être là à se ranger les freins et les angles. Mais la communauté internationale avait donné des indications en guise de conseil pour que la gouvernance s'ouvre quelque peu, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du gouvernement. La tendance était à ce que, bien sûr, lorsque dans un bureau de l'Assemblée nationale, il y a une dizaine de membres ou autres, qu'on veille à réserver au moins deux ou trois ou quatre postes à l'opposition pour que le travail se fasse dans la sérénité. Et là, aujourd'hui, j'ai en tête le bon commentaire fait par le président Ziguélé à la fin des élections pour la mise en place du bureau, où il disait clairement qu'il croyait que les choses allaient se faire dans le sens d'ouvrir bien sûr le système, mais il s'est rendu compte que c'est plutôt l'enfermement, l'exclusion. C'est l'avis que j'ai aussi. Et cela est d'autant plus étonnant.
Donc vous voulez parler de cette composition du bureau, la configuration avec le nombre de MCU.
Pléthorique, même si pléthorique, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et ça sera la même chose. Je suis en train d'entendre dire que c'est la même chose pour la mise en place des commissions.
Oui, les commissions, ça a été déjà fait hier. Hein.
Et autres. Ce n'est pas une bonne tendance. Je le dis aujourd'hui, à 70 ans de vie, avec 20 ans de carrière parlementaire, j'ai vu des passages des systèmes durs vers des systèmes plus souples. Sur le conseil de la communauté internationale, sur le conseil des bailleurs, sur le conseil.
Et donc vous vous inquiétez. Si ça vous va bien, M. Gomina Pampalé, on va y revenir pour comprendre davantage vos inquiétudes par rapport à cette mise en place du bureau de l'Assemblée nationale où vous avez même constaté le nombre de députés du MCU. Monsieur Dimbele Nakwe, sur ce point de la mise en place du bureau, vous étiez deuxième vice-président pour la 16e législature.
Merci beaucoup. Moi je me réjouis de ce bureau qui obéit aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit clairement que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter toutes les sensibilités politiques de l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, M. Yabila vous l'a dit, le président, il est MCU, le premier vice-président, c'est normal, hein, c'est normal qu'il soit MCU, le deuxième vice-président, il est de l'opposition, le troisième vice-président, il est MCU, Le quatrième, il est de la majorité.
Toujours MCU,
Non, il est de la majorité, il n'est pas MCU. Aujourd'hui, Mouni est un parti politique, Mouni peut décider de s'allier avec n'importe
mais
quel...
Mais qui est de la majorité
Mais il est de la majorité. Mmh. Et bon, je voudrais vous rappeler que lors de la première année de la 6e législature, M. Gomina Pampalé était directeur de cabinet. Je voudrais vous dire que le président de l'Assemblée nationale était chemin de l'espérance. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale était chemin de l'espérance. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale était membre du chemin de l'espérance, allié. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale était chemin de l'espérance. Le quatrième vice-président, à l'époque c'était parce que c'est lui-là que Gina est venue changer, c'était également chemin de l'espérance. Donc vous voyez, c'est lorsque... En deuxième année, lors des élections de la deuxième année, nous avons constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tous les membres du Parlement panafricains étaient pour la plupart chemin de l'espérance ou alliés. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale de l'époque prendre son bâton de pèlerin, aller au Gabon, à Malabo. En Guinée équatoriale, au Gabon, à Malabo, au Congo-Brazzaville, demander au président des parlements de ces pays-là de le soutenir pour que certains députés centrafricains, membres du parlement de la CEMAC, mis en place par les Gomina Pampalé et autres, et qui cheminaient ensemble en cette époque-là, parce que c'était les pionniers, c'est eux qui ont créé ce parlement-là. Alors, ce président de l'Assemblée nationale est allé et a demandé à ce que certains députés, contre les règles établies de ce Parlement, parce que les règles, c'est qu'il suffit d'être réélu député de son pays pour renouveler automatiquement son mandat là-bas. Il a été demandé que Mandaba soit enlevé, que Zawa soit enlevé. Heureusement que les Pampalais à l'époque avaient balisé les choses. Et le président de Manché a posé la question au président de l'Assemblée nationale de notre pays. C'était une honte même. Est-ce que vous n'avez pas contacté les Pampalais avant de venir pour qu'ils vous disent comment ça se passe ici? Oui, donc aujourd'hui, ne disons pas qu'il y a un parti qui s'est accaparé de tout.
Mais est-ce que, comme vous l'avez déjà si bien dit, puisque ça a été déjà fait hier, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait suivre la même chose pour éviter les erreurs du passé?
Non, on n'est pas en train de suivre la même chose, je vous dis.
Puisque Chemin de l'Espérance, comme vous l'avez dit, avait occupé par le passé certains postes majoritairement, donc vous voulez parler de ça aujourd'hui? Donc,
vous savez, pour qu'un président de la République, pour qu'un gouvernement travaille convenablement, il faut qu'il ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Et pour que la majorité confortable à l'Assemblée nationale travaille normalement, il faut qu'il y ait un bureau conséquent.
Voilà, et ça,
c'est un jeu, excusez-moi, ça c'est un jeu démocratique connu de tout le monde.
On va y revenir voilà. Sur ce point pour voir mais la majorité, quelle est la place de l'opposition, parce que l'opposition aussi est utile dans la gouvernance.
L'opposition à la deuxième vice-présidence.
Augustin Agou, sur ce de l'Assemblée nationale. Vous avez déjà pris la parole.
Non, pas encore, vous avez décidé, moi je n'ai pas parlé.
Non, vous avez déjà parlé de votre point de vue.
Vous avez commencé.
C'est vous qui avez commencé.
Nous tous, on a déjà parlé.
Tout le monde a parlé sur ce sujet.
Voilà. Je suis en train de. Vous n'avez pas parlé, vous donnez d'abord la parole.
Non, le président Agou a déjà parlé sur ce point.
Il a déjà parlé.
Pas assez de commentaires. Et puis, c'est bien la mission des députés, vous le savez très bien, de voter des lois et de contrôler les actions du gouvernement à travers des questions écrites et ou orales, et voire l'interpellation des ministres. Mais avec cette configuration, je reste avec vous, M. Dimbele Nakoué. Pensez-vous que l'Assemblée nationale de la 7e législature va jouer pleinement son rôle?
Mais naturellement, vous savez, je suis aujourd'hui très content parce que pour la première fois, en dehors de certains députés comme le Gomina Pampali, qui ont fait plus de 4-5, je crois, Quatre mandats.
4 fois 5, 20 ans.
Oui, Mandaba. Mandaba Jean-Michel, 25. Il a fait plus de 4 mandats aussi. Madame Epay, Zawa et consorts. Mais beaucoup de députés de la 6e législature sont revenus. Ils sont revenus. Ngon Baba est revenu, Dila est revenu, Ndombe Clément est revenu, Madame Epay est revenu, Zigele est revenu, Dolegele est revenu. Et Zawa va certainement. Revenu beaucoup.
Non, on ne sait pas parce que beaucoup, les élections se poursuivent là-bas. C'est votre souvenir.
Beaucoup de députés de la 6e législature sont revenus. Et déjà, c'est un bon acquis. La continuité, ouais. L'expérience, la stabilité de l'institution, ils sont là. Deuxièmement, au bureau de l'Assemblée nationale, la plupart sont des anciens. Vous l'avez dit ici, Sénapaï, il l'a dit. En dehors du président de l'Assemblée nationale, vous savez que Ngamana, il est fonctionnaire parlementaire.
Oui.
Il a fait ses débuts de la vie active à l'Assemblée nationale. Dila a fait 4 ans de bureau en tant que premier secrétaire parlementaire. Aujourd'hui, il est deuxième vice-président. Il a acquis l'expérience qu'il faut. Vous avez.
Mais nous sommes en train de parler de cette configuration avec le nombre élevé du MCU. Est-ce que l'opposition aura la main de prendre une décision de boucler certaines choses?
Non, mais moi, je ne sais pas d'où vient l'inquiétude. La différence avec la 6e législature, peut-être on y arrivera tout à l'heure, la différence avec la 6e législature est que nous avons été installés avec les Agoum, nous avons été installés avec la prédominance des députés indépendants. À l'époque, il y avait la prédominance des députés indépendants. Le centrafricain n'avait plus confiance aux partis politiques. Le président de la République lui-même était un candidat indépendant.
En
2016, le président n'avait pas de parti politique. Le MCU a été créé chemin faisant pendant la 6e législature. Mais M. Agou, Mapenzi, Mme Gambo Bernadette et autres, c'est eux qui ont créé la majorité présidentielle pendant la 6e législature. C'est eux qui ont créé aujourd'hui le groupe parlementaire MCU dont il était vice-président. Donc vous voyez, on a créé des choses pour essayer de tenir. Mais aujourd'hui, il se trouve que c'est différent.
C'est un peu différent. Oui. Monsieur Augustin Agou, sur ce point de la prédominance, hein, de la composition d'ailleurs du bureau de l'Assemblée nationale, l'inquiétude, est-ce que l'opposition aura vraiment la capacité de faire face à certaines propositions, à certains faits ou à certaines lois, hein, ou de dire non, nous demander que cette loi ou cette proposition ne puisse pas se faire?
Oui, monsieur Armando, vous savez, l'Assemblée nationale fonctionne sur la base d'un texte appelé le règlement intérieur. Et nous, l'Assemblée nationale, tout se passe par vote. C'est-à-dire que... on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Vous pouvez beau avoir de bonnes
idées. On n'a pas le temps, hein, vous pouvez continuer.
Vous pouvez beau avoir de très bonnes idées. Vous pouvez beau avoir de très bonnes idées. Mais si vous êtes minoritaire...
C'est ce que je voulais dire.
Oui, si vous êtes minoritaire, ça ne passera pas, monsieur Armando. Ça, il faut dire la vérité, il faut parler en langage de vérité.
C'est dommage. Si,
hein?
C'est dommage.
C'est dommage. C'est exactement c'est ça. Dommage. C'est-à-dire que c'est quoi? Je vais vous donner un cas. Et lorsqu'il est question de voter la loi de parité, homme-femme, bien, j'avais proposé pour dire, attention, nous avons un sérieux problème. J'avais un document en main, UNICEF a fait un rapport, et l'UNIFEM pour dire, attention, 10 centrafricaines inscrites à l'école primaire, seulement 4 vont rentrer en secondaire. Et à la fin, une ou deux vont rentrer à l'université. C'est un problème sérieux. Parité, oui, mais où sont nos sœurs demain pour qu'on puisse mettre en pratique ce texte de la loi? Il fallait donner des bourses parce qu'il fallait les aider. Oui, Armando, le système chez nous ici, quand vous quittez Carnot, vous quittez Baoro pour aller à Carnot, il n'y a pas de collège. Ça fait 100 km. Quand vous quittez Mbaïki pour aller à Boda, il n'y a pas de collège. Ça fait 85 km. Et vous allez voir les communes. Et donc, tout ce monde-là, une petite fille qui obtient son concours d'entrée en 6e, doit quitter, par exemple,
100 km
pour aller au collège. Elle va habiter chez qui? Et après, lorsqu'elle arrive en 3e, elle est déjà une jeune fille. Il faut un moyen pour qu'elle puisse avoir des choses que des femmes que vous connaissez. Donc, j'ai fait cette proposition. Mais puisqu'on était minoritaire, mais on a c'est ça le jeu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, vous pouvez avoir de bonnes idées. Texte est vraiment bien, mais si, de l'autre côté, ils sont majoritaires, mais ça ne passera pas.
Oui, monsieur Goumé n'a pas parlé sur ce point. L'inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si le pouvoir décide avec sa majorité pour passer une telle proposition, ça peut se faire parce que l'opposition est minoritaire sur ce point. Et quels sont les dangers, selon vous?
Il n'y a pas de danger comme tel, puisque c'est la loi de la démocratie, c'est la loi de la majorité. Il faut être honnête. Mais le mal, c'est qu'on laisse passer effectivement certaines bonnes idées qui peuvent révolutionner la pratique politique dans un pays, ou qui peut, etc. Mais c'est la loi de la majorité. Voilà, la démocratie a ses avantages et ses inconvénients sur ce plan précis. Mais je crois que ce que nous sommes en train de vouloir un peu dénoncer, c'est pas le fait qu'il y ait l'opposition et la majorité. Moi, ce que je souhaite... Pour avoir observé la marche du pays pendant un certain temps, c'est que ce pays parvienne à une démocratie apaisée, à une démocratie consensuelle, c'est-à-dire que, même si l'opposition est minoritaire, qu'elle soit entendue, que ses points de vue soient entendus, pris en compte pour aider. Il y a combien de RCA, il y a combien de Républiques centrafricaines? C'est un seul pays. Donc, les fils du pays, qu'ils soient la majorité ou de l'opposition ou du centre, ils ont des idées. À un moment donné, il faut qu'ils mettent ces idées-là ensemble. C'est ça qui va booster le pays. Voilà mon avis.
L'expérience toujours avec cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale, toujours, il y a des conséquences positives et négatives. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela, monsieur?
C'est tout à fait normal, honorable député de Sosona, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est dans un pays, un gouvernement a besoin d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. Sinon, c'est pratiquement impossible. Vous savez, même dans le système français, il y a un président qui dit l'élection qui prime, c'est la présidentielle. On organise d'abord l'élection du président à part et après, en fonction de son parti, de son élection, on organise les élections législatives après pour lui permettre d'influer et d'avoir une... On ne peut pas gouverner dans un pays sans la majorité parlementaire. Et ça va de soi. Et donc là, je veux le dire, tout en bas, il faudrait qu'on le dise au peuple centrafricain. La démocratie, ou bien l'une des vertus de la démocratie, c'est la patience. C'est-à-dire que si on a perdu les élections, on a perdu l'élection présidentielle, on attend. On va à l'Assemblée nationale pour articuler des critiques vis-à-vis de celui qui a gagné les élections. Qu'on soit minoritaire aujourd'hui, mais demain, peut-être en 2026, on sera majoritaire. Donc ces idées-là ne sont pas perdues pour répondre à M. Agou. Donc les idées même qu'il a élevées tout à l'heure. L'Assemblée nationale, ce sont nos élus, et puis je suis un peu contre la position de Goumna, il dit la tendance à l'exclusion. Non. Quand un parti politique a gagné les élections, ce parti politique doit gouverner avec ses éléments, pas avec les autres. On ne peut pas gouverner un pays avec des ennemis. Enfin, je ne sais pas. Vous êtes là.
Voilà.
Enfin, ça, c'est le compte.
Non. Le mot ennemi est mal placé.
Non, attendez. C'est l'ennemi politique. Adversaire politique. Vous voulez dire les adversaires politiques.
Je voulais parler de l'adversaire politique.
Voilà, c'est l'ennemi. Je veux parler de l'adversaire.
Je mets ça sous le compte.
Je rectifie. Je dis adversaire, puisque ennemi, c'est trop fort.
Oui,
je dis un adversaire politique. On ne peut pas gouverner avec son adversaire politique. Et donc, maintenant, par rapport à notre contexte, le gouvernement souffre. C'est tout à fait normal parce que c'est contenu, mais par le passé, l'expérience a prouvé que même la minorité a réussi à changer, à révolutionner. Moi, je donne l'exemple du vote de la loi organique de l'ANE. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un projet initié par le gouvernement et qui a été dénaturé par l'Assemblée nationale. Projet initié par l'ANE, le gouvernement présente, et puis l'Assemblée nationale a dénaturé complètement à tel enfin que le gouvernement se retrouvait plus dans ce projet. Et donc, c'est là où je salue, que je redis, les députés ont été responsables. Pourtant, c'est le gouvernement qui avait initié ce projet de loi. L'Assemblée nationale a réussi à dénaturer ce projet et qui est devenu autre chose que ce que le gouvernement pensait.
Donc, je vois, monsieur, vous voulez réagir rapidement sur ce
point. Non, je réagis parce que le Parlement, je parle devant mon collègue Dimbélé qui était membre du bureau de l'Assemblée nationale. C'était pas ça le problème. Le problème, les députés n'ont pas dénaturé, comme dit le chef de mission, non.
Le conseiller politique.
Le conseiller politique, c'est un problème de gestion. C'est-à-dire que vous avez très très mal au niveau du gouvernement attaquer, poser le problème. Je sais ce que j'ai dit. Pourquoi j'avais quitté, vous avez vous-même, collègue Dimbélé, expliqué ici, c'est nous là, c'est nous qui avons créé le groupe parlementaire MCU. Tout ce monde-là sont venus après. Et parce qu'aujourd'hui, on crie, on veut faire comprendre au chef d'État que c'est nous, mais c'est moi là, monsieur Agou, il est là. Mais donc, le problème c'est quoi? C'est que nous avons constaté que vous, au niveau du gouvernement, quand vous préparez un texte de loi, au lieu de réunir votre majorité, de les réunir avant, de les briefer, de les dire, voilà, voici le texte, voilà ce que nous attendons, voici les orientations. Vous ne le faites pas. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre les enveloppes, vous mettez dans les enveloppes et puis rapidement, bon, le texte arrive à l'Assemblée et la majorité, les députés qui sont censés vous soutenir, constatent.
Non, c'est pas ça. Si mais on rentre dans le texte, ce n'est même pas ça.
Non, mais attends, j'ai
compris vous.
Non.
Est-ce que vous pouvez
plus souffler
que
compris,
vous
mais conseiller.
Là, conseiller.
Conseiller.
Là, je vous retire la parole en attendant.
Il y a une commission qui a
conseiller, monsieur. Conseiller. Vous avez parlé devant le deuxième vice-président de l'Assemblée.
Vous aurez votre temps tout à l'heure.
Deuxième vice-président est là, il pourra me dire.
Allez-y, monsieur Agou, mais allez-y.
C'est que le problème, c'est quoi? Vous ne devez pas briefer les députés de la majorité avant.
On avait bien
briefé.
J'étais là, j'étais avec le Premier ministre. On a bien briefé les députés.
Qui? Mais qu'est-ce qui?
Le Premier ministre.
S'il vous plaît, on est en train même d'ailleurs de sortir.
Briefé. Mais vous savez bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a un mandat impératif. Le député se prononce selon...
Oui, monsieur Dimbélé Nakoué, je vous donne 30 secondes, je vous en prie.
Moi, je veux dire que sur ce point bien précis, il y avait beaucoup de sous-entendus.
Voilà.
Hein, beaucoup de choses se sont passées. Ouais. Premièrement, il faut savoir comment l'Assemblée nationale fonctionne.
Voilà.
Lorsqu'un projet de loi arrive, c'est le bureau qui reçoit le projet de loi qui prononce sa recevabilité.
Oui.
Et le bureau peut confier le projet de loi soit à une commission compétente, soit à une commission renforcée, soit à une commission mixte.
Voilà.
Dans le cas de ce projet de loi en question, portant sur
l'ANE, l'organique, de l'ANE,
l'organique, voilà, on avait mis en place une commission élargie.
D'une manière
une
illégale.
Une commission élargie. Non, c'est pas illégal. C'est normal.
C'est normal.
C'est une commission mixte élargie.
C'est le règlement.
On a élargi. C'est le règlement intérieur.
C'est le règlement intérieur. Vous n'êtes pas député. Vous n'êtes pas chargé au Parlement.
J'ai lu le règlement intérieur.
Vous n'êtes jamais chargé pour vous.
Non,
vous n'avez pas bien lu.
Non, c'est normal.
C'est le règlement intérieur.
C'est normal. Et
c'est le règlement intérieur.
Malheureusement, bon, pas malheureusement, mais c'est stratégique.
Voilà, c'est stratégique.
Tous les membres de cette commission élargie, c'était tous des candidats à la présidentielle. Et comment voulez-vous qu'il se fasse Ariki? Hein, il ne peut pas se mettre le couteau. Oui, il peut pas se mettre le couteau à la gorge. Donc, ils sont venus. Et comme la loi dit que le député a également initiative de loi, premièrement. Deuxièmement, les commissions ont compétence pour apporter
sur ce point, je pense que
je vais finir. Oui. Ce qui s'est réellement passé dont M. Agou parle, c'est que il y a des sujets pour lesquels le vote est, secret. Mais nous n'avons pas compris jusque-là, moi je n'ai pas compris, pourquoi ce jour-là, et sur demande de l'ancien président de l'Assemblée nationale et de certains membres de l'opposition, le vote a été secret. Voilà le vrai problème qui s'est posé ce jour-là.
Sur ce point, vous voulez répondre.
C'est une lecture extérieure, même si je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Moi, je suis constitutionnaliste. Oui. Je regarde les textes et puis je les interprète. À l'Assemblée nationale, le gouvernement intérieur prévoit qu'il y a 8 commissions. Parmi ces 8 commissions, il y a une commission présidée
commission
par...
permanente.
Permanente. Oui,
commission
voilà. Permanente.
Voilà.
Pour préciser. Voilà. 8 commissions permanentes. Cette commission qui a été transformée en commission élargie, c'est la commission que présidait Bétangaï. Commission administration, etc. Loi. Voilà. C'est cette commission-là qui a été élargie. Alors que le règlement intérieur ne prévoit pas ce cas de figure.
Si, si.
Non, mais je l'ai lu, s'il vous plaît.
Mais sur ce point,
on peut. Mais je dis, je l'ai lu.
S'il vous plaît, monsieur.
Pas prévu.
Nous ne sommes pas vraiment sur le point de ce sujet.
Ça, c'est un peu technique.
Tu n'as pas bien lu.
Je l'ai bien lu.
Ce n'est pas seulement au cours de la
suite. Je l'ai bien lu.
Cette procédure a été appliquée.
Le problème, il y a une question. J'ai une question pour vous.
Oui.
J'ai une question.
On laisse tomber parce que là c'est trop technique. C'est trop technique. On risque de s'embrouiller. On laisse tomber.
Mais on va y revenir. Oui. Mais sur cette question de majorité à l'Assemblée nationale avec membres du bureau, l'opposition s'inquiète du fait que puisque la majorité est dégagée ou bien l'Assemblée est acquise pour les causes du pouvoir, est-ce que demain s'il y a une proposition de loi pour changer la Constitution, est-ce que cela ne va pas triompher?
Non, pas de fait. L'opposition va jouer son rôle, l'opposition de contestation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on est
contestation,
pouvoir,
oui, mais
on reste dans l'opposition, mais le lieu par excellence pour faire la politique, c'est pas dans la rue, c'est à l'Assemblée nationale. C'est les représentants du peuple qui sont là-bas. Et à l'intérieur de l'Assemblée, il y a deux groupes. Il y a la majorité et puis il y a l'opposition. C'est comme ça partout ailleurs dans le monde entier. C'est-à-dire que même en Grande-Bretagne, il y a un chef de file de l'opposition qui a rendu les prérogatives, c'est pas deux ministres, et qui est bien traité. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on est dans l'opposition, ça ne veut pas dire que la cause est perdue. Non, on est dans l'opposition, on doit jouer son rôle. S'il y a un projet de loi qui arrive, il appartient à l'opposition de contester, donner le point de vue.
Mais
c'est à l'issue des débats contradictoires que maintenant la majorité va se dégager. Et là, si à l'Assemblée nationale, la majorité du côté du MCU, si la majorité se prononce...
Comme il a dit tout à l'heure,
c'est la loi de la majorité.
C'est la loi de la majorité, oui, monsieur Gouminard.
Oui, mais je crois que monsieur Douy est présent à Bangui depuis quand même quelques années.
Bien sûr.
Il est rentré de ses études. Et au cours de la 6e législature, il faut dire les choses telles qu'elles sont, n'est-ce pas? Il y a eu l'opposition, il y a eu la majorité. Mais la plupart des lois sont passées tout simplement parce qu'il y avait une autre pratique. Les mots d'ordre, appuyer, et bien sûr, la loi passe, même si l'opposition fait des observations pertinentes et autres. C'est ce qu'il faut craindre. Et on ne doit pas continuer, le pays ne doit pas continuer à fonctionner de cette manière-là, chers compatriotes.
Non, mais en fait, quand on gouverne, le chef de l'État a été élu sur la base d'un programme politique. Et pour mener à bien ce programme, il faut qu'il y ait le soutien de l'Assemblée nationale.
Oui, ça vous avez
déjà
dit.
Ça n'exclut pas si un projet de loi arrive.
Vous avez déjà dit,
l'Assemblée nationale a le droit d'amendement.
Oui, vous avez déjà dit, avec cette faible représentativité de l'opposition à l'Assemblée nationale, quelle est sa chance de triompher face à un pouvoir qui a déjà une majorité composée des alliés et des indépendants, monsieur?
Monsieur Gomina Pampali, plusieurs fois député, 4 mandats, vous a dit que c'est la loi de la démocratie.
Mais c'est la démocratie.
Non, mais il ne peut pas avoir d'inquiétude.
Non.
Vous avez fait allusion, par exemple, à un projet de loi constitutionnelle. Je pense que vous avez suivi le discours de Madame Darlan lors de l'investiture du président de la République. Vous l'avez suivi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que le président Touadéra est l'un de ceux présidents-là qui laisse la justice travailler. Moi, j'ai initié à l'époque une loi allant dans le sens de la modification de la Constitution. Et aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Mais il se trouve que des collègues de l'opposition s'étaient opposés à cette idée-là.
Cette proposition.
Or, notre proposition n'était pas pour éterniser le mandat du président ni celui des députés, mais c'était pour prendre en compte des phénomènes naturel, réel. Dans toutes les constitutions du monde, on parle des faits qui peuvent comme ça survenir.
catastrophe.
Oui. Des catastrophes. Mais oui, mais c'est sur ce point que nous disons. Non, par exemple, si un Premier ministre ou un ministre faillit à son devoir ou à ses missions avec cette configuration, c'est tout ça aussi, si vous voulez. Je peux changer la question pour vous aider à mieux comprendre.
Non, mais c'est normal.
Est-ce que l'Assemblée peut prononcer, par exemple, avec cette configuration?
C'est normal. Je vous donne
un exemple.
Oui.
En 1998, aux élections législatives de 98 ou 99, le MLPC n'avait pas de majorité. Qu'est-ce que le MLPC a fait? Le MLPC a fait mains et pieds pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. L'affaire Koudou Farah. C'est normal. Où est-ce que vous avez vu un régime
sans majorité?
Vous avez vu un régime ne pas s'intéresser, ne pas chercher à avoir une majorité
ça, vous
à
avez
l'Assemblée
déjà,
nationale.
Vous êtes vertueux pour nous expliquer. Oui. Nous vous posons des questions avec des inquiétudes aussi de la population.
Non, mais moi je n'ai pas d'inquiétude.
C'est la règle du jeu démocratique.
C'est la règle du jeu, mais quelles sont les conséquences?
Dans le bureau de l'Assemblée nationale, il y a l'opposition, Monsieur Dila. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas mathématiquement voter avec la majorité. Ensuite, vous avez un autre organe très influent à l'Assemblée nationale qui est la conférence des présidents. Et la conférence des présidents, pendant la 6e législature, la conférence des présidents était majoritairement constituée de gens de l'opposition. Troisièmement, vous avez les commissions permanentes. Lorsque les lois arrivent, ils sont envoyés à la commission permanente. Il y a les députés de l'opposition qui sont là. Puisque à l'Assemblée nationale...
Il n'y a pas d'inquiétude à ce moment-là.
Non, il n'y a pas... À mon avis, il n'y a pas d'inquiétude.
Il n'y a pas d'inquiétude. Comme vous l'avez dit, monsieur Agou, la 6e législature a été émaillée de beaucoup de scandales, notamment la corruption de certains députés pour le vote en faveur de certains projets de loi. Que faire pour ne pas retomber dans ces déviances?
Bien, monsieur Armando, je pense que tout à l'heure, on va commencer l'émission, vous avez parlé des défis qui attendent les députés nouvellement élus. Et vous avez parlé également des choses à éviter.
Et c'est ça, là,
c'est ça exactement. Ouais. Bien, je voulais d'abord parler des filles et avant de parler de quelque chose.
Vous avez deux minutes pour gagner du temps. Ouais.
Bien, mais vous savez, à ce niveau-là, les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, je peux parler de fonctionnement. La gestion de l'Assemblée nationale pose énormément de problèmes. Je veux parler de la gestion du budget de l'Assemblée nationale, qui n'émane pas du gouvernement. Non. Ce n'est pas le gouvernement qui prépare le budget de l'Assemblée nationale. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui prépare le budget de l'Assemblée nationale, soumet à la commission finance pour l'examen et validation. Et ensuite, la commission finance discute avec le ministère des Finances et on prend seulement à l'État, on complète dans le budget national. Mais cette gestion-là pose énormément de problèmes parce que, bon, vous me donnez deux minutes, quelques indications.
Entre autres.
Voilà, je vais vous énumérer. Par exemple, notre Assemblée nationale aujourd'hui, nous n'avons pas d'Internet. On n'a pas de Wi-Fi. Aujourd'hui, on parle de Covid-19, où toutes les réunions se tiennent par vidéoconférence. Comment nos parlementaires, le bureau de l'Assemblée nationale, comment ils vont faire? Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas une salle d'Internet. Il n'y en a pas. Je prends par exemple la salle où on doit prendre les documents, où on doit stocker, comment vous appelez
les archives,
ça?
Les archives.
Où, la bibliothèque. Où les députés peuvent aller là-bas faire des recherches. Ou les étudiants même.
Ah oui,
quand vous allez, c'est en bas, c'est stocké. Pêle-mêle. Ce que nous disons, c'est rien à voir avec la politique, mais c'est pour aider. C'est pour édifier les nouvelles autorités qui sont au commandement de l'Assemblée nationale. S'ils ne décident pas de donner de nouvelles orientations, je pense qu'on va tourner en rond. Et donc, c'est un problème de gestion des lignes budgétaires. Vous avez, par exemple, on vous donne le rapport, vous allez vous rendre compte que cette ligne budgétaire était inscrite à 10 000 francs, mais on vous dit qu'on a dépensé 14 000 francs sur cette ligne. Mais on ne vous dit pas d'où ce qu'on a trouvé les 4 000 francs pour injecter ici. Ça, c'est des problèmes. Vous avez la vétusté des équipements de l'Assemblée nationale.
Les chaises. Vous pouvez gagner du temps avec les erreurs à éviter.
Les erreurs à éviter, c'est ce que j'ai dit. Au fait, c'est qu'un député, tu es élu de la nation. Tu défends la population. Parce que c'est la population qui t'a fait confiance pour t'élire. Premièrement, tu n'es pas là-bas pour défendre un parti politique ou pour défendre un gouvernement, mais tu défends la population. Ça veut dire que quand un texte arrive à l'Assemblée nationale, en tant que député, tu dois d'abord voir prioritairement l'intérêt des populations qui t'ont fait confiance. Or, le constat, c'est ce que je venais de vous dire. J'ai donné l'exemple de vote de la loi parité hommes et femmes, où il fallait inscrire dans le texte de loi-là des bourses pour aider nos jeunes filles. Donc, c'est ça à éviter parce que j'ai comme impression que
les partis politiques de la majorité comme opposition, on donne des orientations. C'est-à-dire qu'un texte de loi arrive, on dit déjà aux collègues députés, eh bon, ça...
Si tu es de l'opposition, il ne faut pas voter. Est-ce que ça reflète peut-être... Est-ce que ce n'est pas parce que je suis de l'opposition, je ne dois pas voter, mais quel est l'intérêt de la population dans
ça? Mais justement, ce que je vous dis, ce n'est pas question de l'opposition. C'est-à-dire que tu es élu, la population, député de la nation, tu défends les intérêts de la population. Ça veut dire que ce qui devait tourner dans la tête, c'est que... Où est l'intérêt de la population dans ce texte de
voilà,
la loi?
Merci beaucoup. Nous allons gagner du temps. L'expérience chez nous a toujours démontré que les députés privilégient l'intérêt partisan au détriment de celui du peuple. C'est ce que M. Agou venait en peine d'évoquer. Comment la nouvelle législature peut-elle assurer l'opinion aujourd'hui, M. Gomina Pampali?
Peut-être par un changement de comportement public, de pratique à l'Assemblée nationale, puisque nous parlons de députés. Que le député, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, comme mon frère Agou l'a dit, qu'il se sente d'abord comme député de la nation. Il n'a pas de mandat impératif. La discipline du parti, ce n'est pas au sein de l'Assemblée nationale, c'est en dehors. Il vote les lois selon son propre jugement. Bon, ça c'est l'idéal. On sait que ce n'est pas comme cela parce que avant les votes de loi, on réunit les députés, chaque camp réunit les députés quelque part et donne des ordres, donne des directives. Comme je dis encore, des directives appuyées, vous voyez ce que je veux dire, et gare à toi. Parfois, on dresse des listes. Au moment des votes, quelqu'un est là pour
scruter, observer, oui.
Pour scruter et tout. Ça, ce n'est pas la bonne politique et la bonne politique démocratique. Voilà ce que je veux dire.
Voilà, Monsieur Dimbelena Koué, quelles sont les erreurs, selon vous, à éviter pour la nouvelle législature en cours?
Vous savez, ce qu'on dit, ça dépend de là où on se trouve. Hein. Ça dépend de quel côté on se trouve. C'est dommage. La sixième législature, je vous ai dit ici que c'est une législature tout à fait singulière. Comment on l'a commencé? Comment on a commencé cette législature-là? D'abord, l'élection du premier président de cette législature-là, ça s'est fait comment? Je suis honnête en disant que ça s'est fait sur la base de la corruption. Ce président-là a été élu sur la base de la corruption. On a trimballé des députés au restaurant L'Équateur, prendre des députés déjeuner quelque part. On a donné... Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui donnent les leçons. Non.
Et comment moi, il a été démis?
Il a été démis parce qu'on a constaté, parce que nous avons constaté que la loi nous donnait l'autorisation.
Il a été démis sans corruption, comme vous l'avez dit.
Non, il n'y a pas eu corruption. Monsieur Yabela, j'ai préparé le texte.
Il m'a consulté.
Je lui ai amené le texte. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait parfaire le texte? Et personne, même de l'exécutif, n'était pour cette démarche-là. Personne n'était pour cette démarche-là.
Voilà, mais allez-y, c'est rapidement sur les erreurs à éviter.
Et donc, deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure des scandales, de la corruption. Je vous ai dit que lorsque les députés étaient élus, il y avait la prédominance des indépendants. Les partis politiques avaient été boudés par le peuple centrafricain. Et donc, comme disait M. Pampali, la discipline de parti manquait à beaucoup de nos collègues. Comment est-ce qu'on peut constituer un groupe parlementaire en pleine législature? M. Agou a constitué un groupe parlementaire en pleine législature. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Le groupe parlementaire Mouni.
Voilà, mais quelles sont les erreurs à éviter pour...
Pour moi, les erreurs...
Comme conseil à tant qu'ancien.
Je vous dis, moi j'ai confiance en ce bureau. Parce que là-dedans, c'est beaucoup d'anciens qui sont revenus. Je vois Gamana, qui était un fonctionnaire parlementaire. Je vois Dila, ancien AB, et qui était ancien du bureau, les deux.
L'église.
Moi, j'ai confiance.
Vous avez confiance, monsieur Dembélé.
Oui, je pense qu'il y a certaines choses à éviter. Ouais. C'est vrai, c'est la discipline. Maintenant que les groupes parlementaires sont constitués dès le début de la législature... Je voudrais aller dans le même sens que M. Pampali, à savoir que chaque groupe parlementaire, chaque parti éduque ses membres et que la 7e
législature. Voilà, merci beaucoup, monsieur le conseiller politique du Premier ministre Ndiaye Bella. 30 secondes pour boucler.
Seulement,
ouais, voilà, il faut produire comme conseil. Voilà,
il me met la pression.
Vous avez eu beaucoup de temps. Monsieur, vous avez eu beaucoup de temps,
mais c'est pas ça. Vous prenez déjà une partie de
l'histoire. Non, toujours les 30.
Ce que je souhaite pour la 7e législature, que les députés soient responsables et gardent le contact avec la population. Nous, on a vu les députés, une fois élus, ils quittent leur circonscription, ils viennent s'établir ici. Or, le député doit faire le trait d'union, qui est le porte-parole des aspirations du peuple. On ne peut pas se déconnecter. Il faut être... Et puis, encore, je ne sais pas, de ma connaissance, je suis là depuis un certain nombre d'années, est-ce que les députés, nos honorables députés, est-ce qu'ils ont un cabinet ? Sous d'autres cieux, les honorables députés ont un cabinet constitué, parce que ce sont des professionnels de la politique. Ils doivent s'entourer de toutes les garanties, de toutes les compétences. Faut le travail parlementaire, un travail fastidieux. Non, mais laissez-moi expliquer.
Non, on n'a pas le temps. Merci beaucoup.
Mais comment ça?
Merci. Oui, et donc, c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Je rappelle que nous parlions des défis qui attendent les députés de la 7e législature centrafricaine. Merci à tous et à tous nos invités. J'ai bénéficié de la contribution de Igor Jaskin Senapay et de Jean-Yves Bagali du service parlementaire de Radio Ndekeluki. La partie technique était assurée par Gabriel Trésor et Nemati. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir, messieurs.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.